Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 34, Daf Lamed Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans le Daf précédent la Mishnah qui nous racontait le cas de deux couples qui s'étaient fiancés et au moment du mariage, par inadvertance, ils s'étaient échangés les femmes. Là-dessus, la Mishnah nous avait dit qu'il y avait une possibilité d'avoir transgressé quatre interdits. C'est-à-dire si, d'abord, premièrement, parce qu'ils étaient mariés. Deuxièmement, si c'était deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, donc il y avait en plus l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son frère et avec la sœur de sa femme. Et si elles étaient en période de menstruation, il y avait un interdit supplémentaire. Donc, puisqu'on a vu dans le DAF précédent que pas tous les avis n'étaient d'accord qu'un interdit peut prendre effet sur un autre, il reste donc à savoir comment ces quatre interdits puissent prendre effet. Alors par exemple, si la première personne, donc le premier frère, s'est marié en premier avec une des femmes, alors là, directement, elle est interdite sur son frère avec deux interdits. Donc ces deux interdits qui se présentent en même temps, c'est le fait d'être une femme mariée et le fait d'être la femme de son frère. Quand maintenant le deuxième frère s'est marié avec la sœur de la première femme, il y a un deuxième interdit qui prend effet, celui de la femme, de la sœur de la femme. Celui-là ne peut prendre effet que si l'on tient du principe de Issur Kolel, d'un interdit qui vient s'ajouter et qui prendrait effet par association. Parce que, en fait, cet interdit n'a pas un effet concret sur la première femme, puisqu'elle est de toute façon interdite sur le deuxième frère, la deuxième personne, puisqu'elle est déjà une femme mariée et la femme de son frère. Mais, étant donné que les autres sœurs, célibataires par exemple, de cette deuxième femme deviennent interdites par ce mariage, alors en même temps, nous dirons par association que celle qui est mariée avec son frère deviendrait aussi interdite et aurait sur elle cet interdit de la sœur de la femme. Maintenant, quand elle entame une période de menstruation, alors là, c'est un interdit qui s'appelle Issur Mosif, qui a un effet complémentaire. En effet, cette femme maintenant, qui a entamé maintenant une période de menstruation, devient interdite en plus sur son mari. Alors, puisqu'elle devient interdite sur son mari, c'est interdit d'avoir une relation avec une femme en période de menstruation, donc avec une Nida, prendrait effet aussi pour son frère. Alors là-dessus, la Gemara demande « Uman haitana de itle, issur kolel, vi issur mosif, vi issur batachat » Quel est l'auteur, quel est le Tana qui tient clairement qu'un interdit peut se greffer sur un autre, soit par le moyen de issur kolel, donc un interdit qui peut s'ajouter d'une manière par association, ou bien un interdit qui peut se greffer sur un autre par issur mosif, c'est-à-dire que si ce deuxième interdit a un effet supplémentaire, ou bien aussi qu'un interdit peut se greffer sur un autre si ces deux interdits se présentent en même temps. La Gemara répond, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rabbi Meiri. C'est Rabbi Meir qui est d'accord avec ces trois principes. Nous avons vu dans le daf précédent que Rabbi aussi était aussi d'accord avec ces trois principes, mais comme le précise le Ritva, que le fait que Rabbi aussi tienne aussi du principe de Issur Kolel était controversé dans le DAF précédent. Il y avait une discussion entre Rabbi Chia et Bar Kappara à ce sujet. C'est pourquoi la Gemara choisit ici Rabbi Meir qui le tient clairement. De Tania, comme on voit dans... En fait, il faut lire ici d'Etnan, c'est une Mishnah. Yesh ochel achila achat. Il existe un cas de quelqu'un qui mange une chose. Vechaya valea arba chataot. Il devra offrir, après avoir consommé cette nourriture, quatre korban chatat, ve'acham echad, et un korban acham, parce qu'il aura transgressé cinq interdictions. Alors la Mishnah précise, tamé, une personne qui est impure, il n'a donc pas le droit de consommer de la viande de korban, s'il le fait, il doit offrir un korban chatat. She'achal chelev, qui aurait mangé de la graisse interdite, cela aussi, s'il le fait, il doit offrir un autre korban chatat. Ve'hu notar, et en plus, il s'agit de la graisse provenant d'un korban après que le temps de consommation soit dépassé. min mukdashim. Et aussi, donc, puisqu'il s'agit d'un korban, donc, ça appartient au Hekdesh. Beyom HaKippurim, et cela, pendant Yom Kippour. Donc, il doit offrir aussi un autre korban khatat, parce que manger Yom Kippour est aussi interdit. Rabbi Meir Omer dit, Im Haïta Shabbat, si c'était Shabbat, Behotzio Befiv, et il l'a transporté, cette nourriture dans sa bouche, Chayav, il aura aussi transgressé l'interdiction de porter le Shabbat. Amroulo, les Chachamim l'ont répondu, Eno Min Hashem. Il est vrai que cela est possible, mais en tout cas, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit plus haut. Là, en effet, nous parlions d'une personne qui transgressait 5 interdictions en mangeant un seul morceau de viande ou un morceau de graisse. Par contre, ce que Rabbi Meir vient ajouter, c'est une action différente qui est le fait de porter. Pourquoi ? Ça n'a aucun rapport. Il est à noter ici que Rabbi Meir ajoute que si c'était Shabbat, il aurait transgressé l'interdiction de porter, alors qu'il s'agit ici du Yom Kippour, et que tous les travaux interdits le Shabbat sont interdits aussi le Yom Kippour. De là, la Gemara donc est toute déduit que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas l'interdiction de porter le Yom Kippour. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah, selon l'avis du Tanakama, le premier avis de la Mishnah, 5 interdictions qui ont été transgressées en même temps. La première, donc, c'est une personne qui est impure, qui mangerait de la viande de Corban. S'il le fait volontairement, c'est passible de la peine de karet. S'il le fait par inadvertance, il devra offrir un korban khatat. Le fait de manger de la graisse, c'est la deuxième interdiction, c'est la même chose. Et c'est par conséquent, il doit offrir un autre korban khatat. De la viande, ou d'une partie du korban qui reste après que le moment fixé pour la consommation de ce korban soit dépassé, est aussi passible de la peine de karet, du retranchement dans le monde futur. S'il le fait par inadvertance, il devra donc offrir un korban khatat supplémentaire. Donc il s'agit du troisième korban. Maintenant, puisqu'il s'agit de la viande du korban, donc il s'agit de quelque chose qui appartient au Hekdesh, celui qui profite ou qui consomme quelque chose qui appartient au Hekdesh doit offrir un korban Hasham. C'est ce qu'on appelle Hasham Meilot, parce qu'il a transgressé l'interdiction de Meila de profiter du Hekdesh. Le quatrième korban khatat et la cinquième interdiction, c'est le fait de manger à Yom Kippour. Selon Rabbi Meir, il y avait une sixième interdiction, c'est celle de porter le Shabbat. Alors, le problème est de savoir comment toutes ces interdictions se greffent l'une sur l'autre. Alors on dira le chélev. Ce sont certaines parties de graisse qui sont interdites par la Torah, par l'interdiction de chélev. Cette interdiction prend effet dès la création de l'animal. Cette graisse est interdite à la consommation, mais on a le droit d'en tirer profit. Dès qu'on désigne cet animal pour être offert en tant que korban, donc cet animal devient Hekdesh, on n'a plus le droit d'en tirer profit. Puisqu'on n'a plus le droit de tirer profit même de cette graisse, puisqu'elle est devenue Hekdesh, alors l'interdiction de manger ce qui appartient au Hekdesh prendra aussi effet, bien que la graisse soit déjà interdite. C'est là ce qu'on appelle Issur Mosif, parce que cette interdiction de Hekdesh, donc de Meila, a un effet concret supplémentaire, c'est celui d'interdire même de tirer profit de cette graisse. Par conséquent, donc, il devra aussi offrir un korban Hasham. Nous soulignerons ici que l'interdiction de Meila concernant ce qui appartient au Hekdesh ne disparaît pas après l'offrande du korban concernant les graisses, puisqu'elles ne sont pas destinées à la consommation, mais à être brûlées sur le Mizbeach. Maintenant, une fois dépassé le moment de la consommation de ce korban, donc toute la viande qui reste de ce korban est appelée notar, puisque donc on n'a plus le droit de manger aucune autre partie de cet animal, la graisse aussi sera interdite. Là, c'est déjà un issur kolel, c'est par association que cette interdiction prendra effet. Puisque les autres morceaux deviennent interdits, le morceau de graisse en question devient aussi interdit par l'interdiction de notar. Si maintenant la personne en question devient impure, puisqu'elle n'a plus le droit de manger aucun korban, alors elle sera aussi, cette interdiction de quelqu'un d'impur de manger de la viande du korban prendra aussi effet sur cette graisse. Là aussi c'est un issur kolel, c'est par effet d'association que cette interdiction prendra effet. Maintenant, quand vient le Yom Kippour, puisqu'il n'a plus le droit de consommer aucune nourriture, il n'aura plus le droit de consommer non plus ce chélev, cette interdiction de Yom Kippour prendra effet aussi sur cette graisse. C'est ce qu'on appelle aussi issur kolel, parce que c'est par effet d'association que cette interdiction prendra effet. Voilà, donc nous avons pour l'instant le Issour Kolel et le Issour Mossif. Maintenant, Rabbi Meir ajoute que si c'était Shabbat et il l'avait porté ce morceau de graisse dans sa bouche, il a transgressé l'interdiction de Shabbat. Alors, pour comprendre cela, il faut ajouter, comme le précise Tosfot, que c'est expliqué dans Maseret Shabbat que pour transgresser l'interdiction de porter le Shabbat, il faut soulever l'objet de là où il se trouve, le porter 4 coudées dans le Roshut Arabim, ou bien de le porter d'une maison, d'une propriété privée à une propriété publique, et de la déposer. Tant que ces 3 phases n'ont pas été faites, il n'y a pas d'interdiction de Shabbat. Maintenant, si par exemple, il a mis cette nourriture, il était dans une propriété privée, il l'a mise dans sa bouche, et il l'a sortie à l'extérieur, et à ce moment-là, il l'a avalée. Donc au moment où il l'avale, nous considérons que cette nourriture s'est déposée, et à ce moment-là, se transgresse l'interdiction de Shabbat, en même temps qu'il a avalé, qu'il a transgressé donc les autres interdictions de consommer ce chélev. Puisque ces interdictions se font en même temps, alors nous associerons l'interdiction de porter le Shabbat aux autres interdits de consommer le chélev, etc. Alors l'interdiction de porter le Shabbat s'ajoute aux autres interdictions générales de faire les autres travaux du Shabbat, peuvent s'ajouter à l'interdiction de consommer le chélev de cette manière, c'est-à-dire de le mettre dans sa bouche dans une propriété privée et de l'avaler à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle aussi Issur Kolel. Par contre, à propos de l'interdiction de Yom Kippour et de Shabbat, puisque ces interdictions prennent effet en même temps, c'est à la rentrée, à la veille, donc à la tombée de la nuit que prennent effet ces interdictions, donc l'interdiction de consommer de la n'importe quoi pendant Yom Kippour et de porter le Shabbat et par conséquent donc d'avaler ce morceau de graisse à dans une propriété publique si elle a été mise dans la bouche dans une propriété privée, ces deux interdictions prennent effet en même temps. Donc nous avons ici aussi le Batachat, voire le Aruch Laner. Donc là nous avons vu l'avis de Rabbi Meir qui tenait que une interdiction peut se greffer sur une autre dans 3 cas, c'est-à-dire Issur Kolel, Issur Mossif et Batachat. C'est pourquoi donc notre Mishnah pourra s'appliquer. Nous dirons donc que notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Meir, puisque pour transgresser les 4 interdictions, donc d'avoir une relation avec une femme mariée, avec la femme du frère, avec la sœur de la femme et avec une femme en période de menstruation, il faut appliquer ces 3 règles. C'est pourquoi donc nous devons aller selon l'avis de Rabbi Meir. La Gemara demande de Rabbi Meir à Liba Deman. Et Rabbi Meir suit quel des avis? La Gemara fait allusion ici à une discussion entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, rapportée dans Maseret Shabbat, à propos d'un cas d'une personne qui avait 2 enfants à circoncire, un qui devait être circoncis le Shabbat et l'autre le dimanche. Et il s'est trompé, il a circoncis celui qui devait être circoncis le dimanche et il l'a circoncis le Shabbat. Donc finalement, il pensait faire une mitzvah. Et finalement, ce n'est pas une mitzvah qu'il a faite, puisque c'est avant le 8e jour qu'il a circoncis cet enfant, et devra de toute façon être circoncis à nouveau. Donc, il y a une discussion entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Si celui qui se trompe en pensant faire une mitzvah, et finalement il se trouve qu'il a transgressé une interdiction, selon Rabbi Yeshua, il ne devra pas offrir un korban chatat. Nous ne considérons pas qu'il a transgressé une interdiction grave, puisqu'il pensait faire une mitzvah. Par contre, Rabbi Eliezer pense qu'il doit offrir un korban chatat. Alors là-dessus, la Gemara demande, puisqu'il s'agit d'un mariage. Donc là, il se trompait, il pensait chacun se marier avec sa femme légitime, et ils se sont trompés. Donc chacun pensait accomplir une mitzvah. Alors, « I aliba de Rabbi Yeshua, si nous disons que Rabbi Meir suit l'opinion de Rabbi Yeshua, ha'amarta abedvar mitzvah, patur, voici que Rabbi Yeshua dit que celui qui s'est trompé et pensait faire une mitzvah, finalement il a transgressé une interdiction, il sera patur, il ne devra pas offrir de korban. Et là, c'est pourquoi nous devons dire « Aliba de Rabbi Eliezer ». Nous devons dire que Rabbi Meir ici suit l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que même s'il s'est trompé, il pensait faire une mitzvah, mais puisqu'il a transgressé une interdiction, il devra offrir un korban chatat. « Iba itema », si tu trouves à redire sur cette réponse, je t'en dirai une autre. « L'olam aliba de Rabbi Yeshua ». Toujours pourrais-je te dire que Rabbi Meir suit l'opinion de Rabbi Yeshua. Mais « Kikama Rabbi Yeshua tabedvar mitzvah patur ». Quand est-ce que Rabbi Yeshua dit que quelqu'un qui se trompe en pensant vouloir faire une mitzvah, et finalement il a transgressé l'interdiction, Rabbi Yeshua disait donc qu'il n'était pas tout, il ne devait pas offrir de korban chatat. Hanemile gabitinokot. Ces choses sont dites à propos de 2 enfants à circoncire, desmano bahul, parce qu'il est pressé par le temps. En effet, l'essentiel de la mitzvah est de les circoncire le huitième jour qui suit leur naissance. Et par conséquent, le Shabbat, qui est le huitième jour qui suit la naissance du premier enfant, il est troublé pour devoir accomplir cette mitzvah. Et c'est ça qu'il a causé qu'il se trompe. C'est pourquoi il ne devra pas offrir de korban chatat. Aval hay, ki vanden zman o bahul. Par contre, à propos du mariage, donc du cas de notre Mishnah, puisqu'ils ne sont pas pressés par le temps, il n'y a rien qui presse, il aurait pu se marier un autre jour, il aurait pu vérifier. Alors, là-dessus, Rabbi Yeshua ne dit pas qu'il est pas tour, et dans un cas comme ça, il devra offrir un korban chatat. La Gemara demande, v'haret truma den zmano bahul. Voici qu'un cas de quelqu'un qui mange de la truma et qui n'avait pas le droit de le faire. En général, le fait de manger de la truma, il n'est pas pressé par le temps. Et quand même, v'kapata, Rabbi Yeshua dit que s'il s'est trompé, il a mangé de la truma et finalement, il n'avait pas le droit de le faire. Rabbi Yeshua dit qu'il est pas tour, betnan. Parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Trumot. Haya ochel betruma. Un Kohen qui mangeait de la truma, venoda shehu ben grosha o ben chalutza. Et il s'est avéré par la suite qu'il était le fils d'une femme divorcée ou le fils d'une femme dont on a fait la chalitza. C'est-à-dire, son père s'était marié, avait transgressé l'interdiction de la Torah et s'était marié avec une femme divorcée ou une femme dont on a fait la chalitza. L'enfant issu de cette union est considéré comme un Kohen profane, c'est-à-dire un Kohen halal. Il n'a pas le droit de consommer de la truma. Il ne le savait pas au moment où il a commencé à manger la truma, mais finalement il s'est avéré par la suite qu'il n'avait pas le droit de consommer de la truma. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Bechomesh. Rabbi Eliezer dit qu'il devra payer le capital et un cinquième en plus, 20% en plus. C'est la peine de quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui mange de la truma. Rabbi Yeshua Poter, Rabbi Yeshua dit qu'il n'est pas tour, il ne devra pas le payer parce qu'il pensait qu'il était Kohen. Donc là, pensant qu'il était Kohen, il pensait accomplir une mitzvah, celle de manger de la truma. Et finalement, il s'est avéré qu'il n'avait pas le droit de consommer la truma, et en plus, il n'a pas accompli de mitzvah. Et Rabbi Yeshua dit qu'il est pas tour, il ne devra pas payer le capital et le cinquième en plus, et cela bien qu'il ne soit pas pressé de consommer cette truma. L'agma répond, ha itmar Allah. Voici qu'il a été dit dans la Maseret Pesachim à ce sujet, Amar Avi Bibarabaye, Hacha betruma beret Pesach askinan. Il s'agit de la truma, le Eret Pesach, c'est-à-dire, il s'agissait par exemple du pain de truma la veille de Pesach, Desmana Bahoul, parce que là, il est pressé. En effet, s'il ne consomme pas cette truma, elle devra être brûlée. C'est pourquoi donc, selon l'avis de Rabbi Yeshua, il sera pas tour, il ne devra pas payer le capital et le cinquième en plus. Par contre, dans notre Mishnah, où il n'est pas du tout pressé, il n'était pas obligé de se marier ce jour-là, alors, même selon l'avis de Rabbi Yeshua, il sera chayav, il sera considéré comme s'il a transgressé une interdiction. Vibaitema, si tu trouves à redire sur cette réponse, je pourrais te dire qu'il s'agit d'un cas de Beissur Batachat, qu'il s'agit d'un cas où toutes les interdictions ont pris effet en même temps, Ve'aliba de Rabbi Shimon, et cela selon l'avis de Rabbi Shimon. On l'a vu dans le date précédent que Rabbi Shimon était d'accord qu'une interdiction peut se greffer sur une autre si toutes les interdictions prennent effet en même temps. Et par ailleurs, comme le Tosfot Arosh le précise, l'avis de Rabbi Shimon est qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua dans le cas de quelqu'un qui pensait faire une mitzvah et il n'a pas du tout accompli de mitzvah. C'est-à-dire dans le cas donc qui a été cité plus haut, du cas de deux enfants dont un devait être circoncis le dimanche, s'il a été circoncis le jour avant, il n'a pas accompli de mitzvah et par conséquent, même Rabbi Yeshua sera d'accord qu'il a transgressé l'interdiction. La discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua est dans un cas où un enfant devait être circoncis le vendredi et il a interchangé ses enfants et finalement il a circoncis celui qui devait être circoncis le vendredi, le Shabbat. Finalement donc il a accompli une mitzvah, bien que il n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour cela, une fois le huitième jour qui suit la naissance dépassée, mais au moins il a accompli la mitzvah, celle de circoncire un enfant. Dans ce cas, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Dans l'autre Mishnah donc, dans le cas où il ne s'est pas marié avec sa femme légitime, il n'a pas accompli de mitzvah. Et par conséquent, même Rabbi Yeshua sera d'accord que, même s'il s'est trompé en pensant accomplir une mitzvah, puisqu'il n'a pas accompli de mitzvah, il aura transgressé les interdictions. La Gemara demande, Vishlama kulhu mashkachat lehu. On peut bien comprendre que tous les cas, c'est-à-dire le cas de la femme mariée, le cas de la femme du frère et le cas de la sœur de la femme, ils peuvent se trouver que toutes ces interdictions prennent effet en même temps. Deshavinhu shliach, que les hommes, donc les deux frères, ont désigné un émissaire pour marier ces femmes. Veshavu inhu shliach, et ces deux sœurs ont aussi désigné un émissaire pour recevoir les kiddushin. Ou pagash shliach beshliach, et l'émissaire des frères ont rencontré l'émissaire des sœurs, et ainsi ont transmis l'un à l'autre les kiddushin. Par conséquent, les kiddushin des deux frères ont pris effet en même temps, et par conséquent, l'interdiction de la femme mariée, celle de la femme du frère et celle de la sœur de la femme, ont pris effet en même temps. Et la nidot, par contre, l'interdiction d'avoir un rapport avec une femme en période de menstruation, hechi mashkachatla, comment est-ce qu'on peut trouver que cette interdiction prenne effet en même temps que les autres interdictions? La Gemara répond, Amarav, Beshofot, Mitoch, Yud Gimel, Lachar, Shlosha Asar. Il s'agit des cas donc, où ces deux sœurs ont entamé une période de menstruation avant que les deux frères atteignent l'âge de 13 ans, et cette période a continué après l'âge de 13 ans. Nous noterons ici qu'en fait, il n'est pas nécessaire qu'elles aient une période de menstruation pendant une longue période, mais tant qu'elles ne sont pas purifiées dans le mikvé, elles sont considérées comme étant en période de menstruation. Donc en fait, il s'agit d'un cas où, après la première période de menstruation qui aurait commencé avant que ces deux frères atteignent la majorité, l'âge de 13 ans, et elles ne se sont jamais purifiées dans un mikvé. Et cela, les achyuvé inhu, cela pour les rendre coupables, mitor shnem asar l'achar shnem asar, avant qu'elles atteignent l'âge de 12 ans, et cette période de menstruation a continué après qu'elles aient atteint l'âge de 12 ans, donc la majorité, les chiyuvei inhi, pour qu'elles soient coupables. En effet, donc, toutes les interdictions ne prennent effet que quand la personne concernée atteint la majorité. Alors ici, il s'agit d'un cas où ces deux frères et ces deux sœurs avaient leur anniversaire le même jour, mettons par exemple Rosh Hashanah, mais à un an de différence. Ce qui se trouve que ils atteindront tous les quatre la majorité au même moment, c'est-à-dire quand débutera le Rosh Hashanah de l'année où ces deux frères auront 13 ans et elles auront 12 ans. Maintenant, il s'agit d'un cas aussi, comme l'explique le Keren Ora, d'un cas où ils auraient, la veille de ce Rosh Hashanah, donc la veille de leur anniversaire, ils auraient transmis l'un à l'autre les Kiddushin, en continuant à parler jusqu'à ce que débute le Rosh Hashanah, et à ce moment-là, ils avaient entamé déjà une période de menstruation avant, donc les Kiddushin prendront effet à l'entrée de Rosh Hashanah, là où ils atteignent la majorité, et aussi en même temps, l'interdit d'avoir une relation avec une femme en période de menstruation prendra effet aussi en même temps. Il se trouve donc que ces quatre interdits, celui d'avoir des rapports avec une femme mariée, et avec la femme de son frère, et avec la sœur de sa femme, et avec une femme en période de menstruation, prendront effet en même temps. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit « Mafrishim ». Donc à la suite de cette histoire, il faudra séparer ces femmes de leur mari pendant une période de 3 mois, de peur qu'elles soient enceintes. L'Agma demande « Veha en isha mitaberet bevi arishona » Voici qu'une femme vierge ne peut pas tomber enceinte d'un premier rapport. L'Agma répond « Amar Rav Nachman amar Rabba Baravua »« Sheba alu veshanu » Il s'agit où ils ont eu ces rapports deux fois de suite. Et par conséquent, il y a lieu de craindre qu'elles soient devenues enceintes. L'Agma demande Voici que Rabbi Chia avait enseigné que dans ce cas, il y aurait 16 korbanot chatat à offrir, c'est-à-dire 4 pour chacune des personnes concernées. Tlatin betartel havian. En fait, il devrait avoir 32 korban chatat puisqu'il y a eu 2 rapports. Parce que nous avons établi que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Eliezer, et par ailleurs, nous savons que l'avis de Rabbi Eliezer est que 2 transgressions commises dans un même instant d'oubli, c'est-à-dire à la suite l'un de l'autre, seront sanctionnés par 2 korban chatat, sont considérés comme étant 2 averot. Alors là, pendant qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait de la femme de leur frère, donc finalement, ils ont fait ces 2 rapports dans un état d'oubli. Selon l'avis de Rabbi Eliezer, ils devraient offrir pour chacun de ces rapports un korban chatat. Donc finalement, nous devons doubler la somme des korbanot chatat. La Gemara demande, Vili Tamer, et selon toi qui pense qu'il fallait prendre en ligne de compte aussi le deuxième rapport pour le nombre des korbanot khatat, les rabbis. Puisque par ailleurs nous savons, comme ça a été enseigné dans Maseret Shvuot, que si pendant un rapport, la femme dit à son mari qu'elle a entamé une période de menstruation et le mari s'est dégagé tout de suite, il a transgressé aussi l'interdiction parce que son dégagement lui a occasionné du plaisir. Nous voyons donc de là que ce n'est pas le rapport tout entier qui est sanctionné par la Torah, mais chacun des mouvements qui occasionne le plaisir est sanctionné par la Torah. Alors, le Rabbi Eliezer de Mechayev al Kol Kohar Vekohar, selon l'avis de Rabbi Eliezer, comme nous avons expliqué plus haut, qui dit que deux transgressions dans un même état d'oubli sont condamnées et il faudra offrir donc deux korbanot khatat, il sanctionne aussi donc chacun des mouvements qui occasionnent le plaisir. Tout va havian, il y a donc beaucoup plus de korbanot khatat à offrir. L'agma répond, et là de Bekoach Rishon Kachashi. Là, la Rabbi Chia, quand il a enseigné qu'il y avait 16 korbanot khatat à offrir, il parlait du premier mouvement qui a entamé cette interdiction du rapport. Mais il est vrai que ce nombre sera multiplié selon le nombre de mouvements. Seulement, ce que Rabbi Chia a voulu nous enseigner, qu'une seule action ou une seule des parties des actions seront condamnées par ou devront être offertes 16 korbanot khatat. Hachanani, alors là on dira que même si on dit que pour chacun des mouvements, il n'y a pas de korban khatat, quand même nous dirons que de Bia Rishona Kachashiv, que Rabbi Chia a pris en ligne de compte et a compté que le premier rapport. Il est vrai que s'il y avait un deuxième rapport, on doublera le nombre de korbanot khatat à offrir. La Gemara demande à Marle, Ravale Rav Nachman.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Lamed Dalet Amud Bet. Comment est-ce que tu peux me dire qu'une femme ne peut pas, une femme vierge ne peut pas tomber enceinte d'un premier rapport? Veha Tamar bevia rishona yabra. Voici que Tamar est tombée enceinte d'un premier rapport avec l'histoire qu'elle a eue avec Yehuda. Amar le, Rav Nachman a répondu à Rava, Tamar be'etzba miacha. Tamar avait enlevé son hymen avec ses doigts et par conséquent elle n'était plus vierge. D'Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit, « Kol mo'achot shel bet Rabbi, tamar shman. » Toutes celles qui enlèvent leur hymen avec leurs doigts dans la maison de Rabbi s'appelaient Tamar. Alors le Méri explique qu'il le faisait pour pouvoir tomber enceinte du premier rapport, parce qu'à l'époque, les maris partaient tout de suite apprendre la Torah en dehors de leur vie. « Vela manikran shman Tamar. » Pourquoi est-ce qu'on appelle leur nom Tamar? « Al shem Tamar shemiyacha be'etzba » En souvenir de Tamar qui avait aussi sorti son hymen avec son doigt, pour ne plus être vierge et aussi avoir des enfants de Yehuda. La Gemara demande, comment est-ce que tu me dis que à propos de Tamar, il s'agissait d'un premier rapport? Veha avu Erve Onan, voici que les deux fils de Yehuda s'étaient mariés avec elle. La Gemara répond, Erve Onan shimshu shelo kedarkan. Erve Onan, en fait, n'ont pas eu de rapports normaux avec elle. Ils ont fait pratiquer la sodomisation. Par conséquent, quand elle a eu le rapport avec Yehuda, elle était encore vierge, elle n'avait pas enlevé son hymen avec son doigt. La Gemara demande, Métivé. La Gemara a posé une question à partir d'une braïta. Il s'agit ici d'une femme en période d'allaitement, donc pendant les 24 mois qui suivent la naissance d'un enfant. Nous avons vu dans le premier pérec qu'il était dangereux pour le bébé que sa mère tombe enceinte pendant la période d'allaitement. Voilà, la braïta propose, Kol esrim v'abachodesh, tous les 24 mois, qui est donc la période d'allaitement, Dash mi bifnim vezore mi bachutz, le mari pourra avoir des rapports normaux avec sa femme, mais fera une éjaculation extérieure. Du vrai Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Am roulo, les chachamim ont dit Rabbi Eliezer, halalo eno elak ma serve onan. Se conduire de cette manière, c'est comme ce que Erve Onan faisait, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, la Gemara a compris que ce que Erve Onan faisait, c'est qu'ils avaient des rapports avec Tamar, mais de manière à ce qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Et la Gemara a compris ici qu'il s'agissait d'une éjaculation extérieure. La Gemara répond non. Kemaaser ve'onan velo kemaaser ve'onan. En fait, faire donc se conduire de cette manière, c'est comme ce que Erve Onan faisait, mais ce n'est pas exactement ce qu'il faisait. Parce que cela rejoint finalement la même idée, c'est d'avoir un rapport de manière à ce que la femme ne puisse pas tomber enceinte. Alors, Kema, c'est Erve Onan, se conduire de cette manière et se conduire comme ce que Erve Onan faisait, dirtiv. Parce que le pasouk dit, à propos de Onan, Vehaya imba eleshet achiv, et quand il avait un rapport avec la femme de son frère, Veshichet arza, il faisait en sorte qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Mais quand même, Velo Kema, c'est Erve Onan, mais ça ne ressemble pas entièrement à ce que Hervé Onan faisait, des ilu hatam shlo kedarka. Là-bas, à propos d'Hervé Onan, il s'agissait d'un rapport d'une manière anormale. Vehacha kedarka, mais ici, il s'agit d'un rapport d'une manière normale, mais seulement d'une, il faisait une éjaculation extérieure. Bishlama Onan Lagmara demande, on comprend encore à propos de Onan, virtive bishiret arza, où la Torah dit clairement qu'il faisait en sorte qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Et la R menalal, mais d'où est-ce qu'on sait que R aussi, son grand frère, donc, faisait la même chose? Lagmara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dirtiv, parce que le pasouk dit à propos de Onan, Vayamet Gamoto, et Akesh Baruch Hu l'a aussi tué. Nous comprenons de là, puisqu'on compare la mort de l'un à la mort de l'autre, Afhu Botomitamet, celui-là est mort de la même manière et pour la même raison. Donc nous comprenons que R aussi faisait en sorte qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Lagmara demande, Bishlama Onan. On comprend encore que Onan n'ait pas voulu qu'elle tombe enceinte, Mishum Lolo Yazera, parce que, comme le pasouk le dit, il savait que cet enfant ne serait pas nommé après lui, ne serait pas considéré comme son fils, puisque c'était considéré comme le Yiboum, et par conséquent, l'enfant qui naîtrait de cette union serait considéré comme étant le fils de Er. Et la Er, par contre, Er Maitam Avadachi, pourquoi il se conduisait de cette manière? Takma répond, Kedesh Lotitaber Veakri Shofia. Alors, il le faisait pour ne pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle perde de sa beauté. Tanu Rabbanan, le Chachamim m'a enseigné dans une braïta. Il s'agit ici du pasouk dans Vaïkra, qui parle d'un homme et d'une femme qui auraient eu un rapport. Ils devront se purifier dans un mikvé. Et cela même s'ils n'ont pas touché la semence avec des parties dévoilées, quand même, la Torah exige de se purifier dans le mikvé. Alors la Torah, qui parle à ce sujet, dit « Ve'isha asher ishka vishota » et une femme qu'un homme aura couché avec de la semence, ils devront se laver dans de l'eau. Alors, il y a plusieurs termes en plus. Il y a le terme de ota, elle, parce que évidemment qu'on parle d'une femme, et le terme de shirvat zera est aussi en plus. Alors, le Braïta nous dit, ota prat le kala. Le terme de ota vient exclure la jeune mariée, donc le premier rapport la nuit du mariage. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, Chachamim disent, prat le shelo kedarka, ça vient exclure le cas d'un rapport d'une manière anormale. Amar le hon bered de Rav Nachman, le Rav Nachman, hon, le fils de Rav Nachman a dit à son père Rav Nachman, lema kasava Rabbi Yehuda, est-ce que nous pourrons dire que Rabbi Yehuda pense, ha Torah chassa al tachite kala, que la Torah a voulu préserver le maquillage de la jeune mariée, et par conséquent, nous dirons que la Torah n'a pas exigé de se purifier dans le mikvé tout de suite au début du mariage. Amar le, Rav Nachman lui a répondu non, ce n'est pas pour ça, mais les filles Shenisha mitaberet mibia rishona, parce qu'une femme vierge ne peut pas tomber enceinte d'un premier rapport. C'est pourquoi donc, ce n'est pas un rapport qui pourrait donner naissance à un enfant, et il n'y a pas lieu de se purifier dans le mikvé. Et Maïka Miflege, alors en quoi discutent Chachamim et Rabbi Yehuda? Rachman répond, Rabbanan savre shichvat zera, les Chachamim pensent que le terme de shichvat zera, donc semence, prat le ha'ara, vient exclure un début de pénétration où donc il n'y a pas eu de semence. Ota, le terme de Ota, prat le shelo kedarka, vient exclure un rapport anormal. Dans ces deux cas, donc il n'y aura pas besoin de se purifier dans le mikvé. Rabbi Yehuda Sabar, Yehuda pense, shelo kedarka ba'ara, mishchvat zera nafka. Les deux types de rapports, donc le rapport d'une manière normale et juste le début du rapport, seront exclus du terme shirvat zera, puisque dans les deux cas, il n'y a pas de semence qui peut donner lieu, qui donne naissance à un enfant. Ota, donc le terme de Ota qui est en plus, prat le kala, viendra exclure la jeune mariée le soir de son mariage. Qui ata Ravin, quand Ravin est venu d'Eret Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, kol shesha ata achar ba'ala eser shanim, toute femme qui a attendu après la séparation de son mari pendant une période de 10 ans, c'est-à-dire après la mort de son mari ou après un divorce, venisset et après elle s'est mariée, shuv ena yoledet, elle ne pourra pas plus avoir d'enfant, apparemment parce qu'elle serait devenue frigide. Amar Rav Nachman, lo shanu ela shel natali nase. Cette halakha ne s'applique que dans le cas où elle n'avait pas l'intention de se marier. Aval datar linase, mais si elle avait l'intention de se marier, mitaberet, elle pourra tomber enceinte, elle pourra avoir des enfants. Amar le, Rava le bat Rav Chisda, Rava dit à la fille de Rav Chisda qui s'était mariée avec lui par un deuxième mariage. En effet, la fille de Rav Chisda était marié d'abord à Rami Bar Chama, et après sa mort, apparemment donc longtemps après sa mort, elle s'est mariée avec Rava. Alors Rava dit à sa femme, donc la fille de Rav Chisda, Kameranene Rabbanan Avatrech, voici que les Chachamim jasent après toi, puisque tu t'es marié longtemps après la mort de ton mari, et quand même tu as eu des enfants. Apparemment donc, tu aurais peut-être eu des rapports avec des autres gens pendant ce temps. Amrale, elle lui a répondu, Ana Datayala Chavai, moi je pensais me marier avec toi. En effet, il y a une Gemara dans Bar Vatra qui raconte que la fille de Rav Chisda était dans les bras de Rav Chisda, et il y avait ses deux élèves, Rami Bar Chama et Rava devant lui. Alors elle lui a demandé à sa fille, avec qui tu veux te marier? Elle a dit avec les deux. Et quand elle s'est mariée avec Rami Bar Chama, elle a pensé que par la suite elle aurait le zchout de se marier avec Rava. Hahida tia le kamed Rav Yosef, une femme qui est venue devant Rav Yosef, Amralo, elle lui a dit, Rebi, ana shaiti achar bali esar shanim, j'ai attendu 10 ans après la mort de mon mari, veyalati, et quand même j'ai 10 enfants, par un nouveau mariage. Amarla, Rav Yosef lui a répondu, Biti, ma fille, al totsi laaz al divrei chachamim, ne dénigre pas les paroles de nos sages, apparemment tu mens. Amralé, elle lui a répondu, effectivement c'est vrai, le nochri nivalti, j'ai eu un rapport avec un goy pendant cette période. Donc par conséquent, je n'ai pas passé 10 ans sans avoir de rapport. Nous avons fini ici le shiur de Yevamot Daf Lamed Alef. Nous commençons le shiur de Yevamot Daf Lamed He. Nous commençons Daf Lamed Alef Amud Bet à 6 lignes du bas de la page. Nous avons vu dans la Mishnah, Daf Lamed Gimel Amud Bet, que deux couples qui auraient donné les kiddushim, donc qui auraient été fiancés et au moment du mariage auraient interchangé les femmes, et par conséquent donc il y aurait eu un rapport interdit, elles devront attendre 3 mois avant de retourner à leur mari de peur qu'elles soient tombées enceintes. Là-dessus, Amar Shmuel a dit là-dessus, Vechulan Tzrichot Lamtin Shlosha Chodashim, toute femme qui aurait eu un rapport devra attendre 3 mois avant de se marier pour savoir de quelle union est né l'enfant en question. Chutz Migeoret ou Meshukheret Tana, à part la convertie et l'esclave qui aurait été libérée, toutes les deux si elles sont mineures. Cela parce que de toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant. Aval Ktana bat Israël. Par contre, une mineure bat Israël, juive, Tzicha Lamtin Shlosha Chodashim, elle devra attendre 3 mois après un rapport si elle veut se marier. La Gemara demande, Ubemai. Dans quel cas on nous dit qu'une mineure doit attendre 3 mois? Ibemioun, s'il s'agit d'une mineure qui aurait refusé un mariage, c'est-à-dire une mineure donc qui n'aurait pas de père et qui aurait été mariée par sa mère ou son frère, c'est un mariage midérabanan, elle a la possibilité de refuser le mariage tant qu'elle n'a pas atteint sa majorité. Alors, dans un cas comme ça, nous voudrions dire qu'elle doit attendre 3 mois avant de pouvoir se remarier. Voici que Shmuel a dit de l'Obaya qu'elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour se marier, puisque de toute façon elle est mineure, elle ne peut pas tomber enceinte, et il n'y a pas lieu de faire un décret de peur qu'elle le fasse quand elle grandisse. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas 3 mois après un mariage pour se remarier. Cela parce que on sait très bien que ce n'est qu'une mineure qui peut se libérer d'un mariage par le refus de ce mariage. Une femme majeure ne peut pas se libérer d'un mariage de cette manière. Des ibeget, et s'il s'agit d'une mineure qui aurait reçu un acte de divorce, ha amra Shmuel chadazimna, voici que Shmuel l'a dit déjà une fois, d'amar Shmuel, parce que Shmuel a dit, donc dans Ktuvot, mi anabo, enatzicha lamtin shlosha chodashim. Une mineure qui aurait refusé le mariage n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour se remarier. Nathan Laguette, par contre, si elle s'est libérée de ce mariage par un acte de divorce, Tzricha Lamtin Shlusha Chodashim, elle devra attendre 3 mois. Et là, c'est pourquoi nous dirons que Beznout, il s'agit d'une mineure qui aurait eu un rapport sans mariage. Là-dessus, Shmuel dit qu'elle devra attendre 3 mois si elle veut se marier.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.